Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, le chef de l'État recommande aux jeunes Congolais à participer massivement aux prochaines élections, non seulement comme électeurs, mais aussi candidats, pour insuffler un vent nouveau aux multiples défis du pays. C'était ce mercredi à Kinshasa, dans une rencontre dénommée « Le président de la République face à la jeunesse ». Les travaux proprement dits du troisième round du processus pour le retour de la paix dans l'est de la RDC ont débuté cet avant-midi au Safari Park Hotel de Nairobi. Ces travaux sont dirigés par l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. L'invité de ce journal est le chargé de communication de Expo Béton, le salon de réflexion sur la construction et les infrastructures en RDC. Philippe Katumba parle de l'objectif de la 6e édition de ce salon, celui d'achever les réflexions sur le statut de Kinshasa comme province et pas seulement comme ville. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État était devant des milliers de jeunes de la RDC ce mercredi au Palais du Peuple ici à Kinshasa dans une rencontre dénommée « Le président de la République face à la jeunesse ». Dans la salle de plénière de l'Assemblée nationale, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a recommandé aux jeunes congolais à participer massivement aux prochaines élections, non seulement comme électeurs, mais comme candidats, pour insouffler un vent nouveau aux multiples défis du pays. Peu avant, le président du Conseil national de la jeunesse, après avoir énuméré les réalisations du pouvoir actuel en faveur des jeunes, a appelé les parlementaires à élaborer une loi instituant la formation militaire obligatoire avant le cursus universitaire. Les détails avec Billy Ivan Lutumba.
Dans une adresse ponctuée d'un incessant appel à l'unité, au rejet du tribalisme et au patriotisme parmi les jeunes, le président du Conseil national de la jeunesse a recommandé auprès des autorités du pays la prise en compte des jeunes en cas de disponibilité d'emploi.
La réinsertion de plus de 26 000 jeunes par année sur l'étendue du territoire national à travers des formations de métiers, dans le souci de créer une main-d'œuvre qualifiée et une classe moyenne.
Afin de permettre une organisation et gestion efficiente des conseils provinciaux des jeunes, le ministre de la Jeunesse a sollicité au président de la République des instructions aux gouverneurs des provinces pour pourvoir des moyens conséquents pour impacter positivement la marche du pays. Félix Tshisekedi, devant la jeunesse, a exhorté les jeunes Congolais à bannir tout ce qui les divise et avouer qu'ils fondent ses espoirs sur le Conseil national de la jeunesse pour combattre la prédation et autres maux de la société congolaise.
Dans le secteur public, notre ministre a effectué beaucoup de réformes qui ont permis d'envoyer un grand nombre de fonctionnaires à la retraite, dans une retraite honorable, mais aussi cela permet de dégager beaucoup d'espace pour que dans les années qui viennent, nous puissions engager des dizaines de milliers de jeunes à travers le pays.
Une étape de questions-réponses a sanctionné la fin de ce face-à-face, Félix Tshisekedi et la jeunesse congolaise.
Je le disais au sommaire, les travaux proprement dits du troisième round du processus pour le retour de la paix dans l'est de la RDC viennent de débuter cet avant-midi au Safari Park Hotel de Nairobi. Les travaux sont dirigés par l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Martial Papi Mukeba, vous êtes en direct de Nairobi. Les jalons ont été posés avec des adresses aux différents participants.
Exactement, les facilitateurs désignés de l'EAC pour ce processus s'est adressé aux différentes délégations congolaises. L'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta vient de déclarer que les discussions doivent se dérouler dans le respect de la souveraineté de la RDC. Pour lui, le troisième round du processus de Nairobi doit déboucher sur la publication d'un communiqué final pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Uhuru Kenyatta vient d'annoncer également qu'il aura des séances de travail avec différentes délégations, notamment les groupes armés. Pour sa part, l'envoyé spécial du chef de l'État pour le processus de Nairobi vient de déclarer qu'il ne sera plus possible d'intégrer les groupes armés au sein des forces de défense et de sécurité, mais aussi qu'il n'y aura pas d'amnistie pour les crimes commis contre les Congolais. La justice transitionnelle sera mise en place pour rendre justice aux victimes, annonce-t-il. Sur la question du M23 qu'il a qualifié d'un mouvement terroriste, l'envoyé spécial du chef de l'État pour le processus de Nairobi vient de préciser, je le cite, « Le leadership du M23 est sous sanction de la communauté internationale et devra rendre compte ». Fin des citations. Cet après-midi, les travaux doivent se poursuivre, probablement en groupe et sous-groupe.
Au Nord Kivu, malgré l'appel de cesser le feu lancé par les chefs d'État de l'EAC pour le processus de paix en cours, une dizaine de groupes armés sont impliqués dans les affrontements contre les rebelles du M23. Cela pendant que les délégués des 10 milices participent actuellement aux consultations de Nairobi 3. Ces combats qui se poursuivent occasionnent entre autres plusieurs cas de représailles contre les civils. Grâce à Mzati.
Les principaux groupes armés impliqués dans ces combats émanent des sources diversifiées, cite les NDC rénovés de Guidon Chimwerai, la paix céleste de Janvier Karahiri, les CMC Nyatura de Domi, les FPP AP de Kabido, les NDC rénovés de Fidel Mapenzi et l'AFRC de Kakule Jetem, pour ne citer que ceux-là. Ces groupes, en plus des FDLR, coalisent sur plusieurs fronts contre les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru. C'est notamment dans les groupements de Bishusha et Bambo, chefferie de Bwito, mais aussi Kisigari, Rugari et Binza, chefferie de Bwisha. Si certains activistes et mouvements citoyens encouragent le fait que cette intervention des miliciens locaux retarde l'avancée des M23 vers les grandes agglomérations du Nord Kivu comme Kichanga, Kibirizi ou Nyamilima et l'ouvre cependant des voies à plusieurs actes de représailles. Dans les villages où les rebelles essuient plusieurs attaques de ces miliciens et les FDLR, des civils qui sont considérés comme maïmaï ou complices des FDLR sont tués ou pris en otage à chaque fois que les rebelles du M23 reviennent à la charge. De tels cas sont déjà décriés à Kishishi, Kisharu et Rugari cette semaine où des sources parlent de plus de 20 civils qui ont déjà été tués par les rebelles.
La vigilance à laquelle le président de la République a fait allusion il y a quelques semaines dans son adresse à la nation n'est nullement à confondre avec la création des groupes armés. La précision est de l'envoyé spécial du chef de l'État pour le processus de Nairobi pour la paix dans l'est de la RDC. Selon le professeur Serge Tibangu, les groupes de vigilance doivent veiller uniquement à ce que l'ennemi n'infiltre pas les agglomérations. D'après lui, ils doivent se référer aux forces de défense et de sécurité, à la force régionale de l'EAC, mais également à la MONUSCO en cas d'alerte ou toute dénonciation. On l'écoute au micro de Marcel Papimoukeba.
Cet appel à la vigilance, aux groupes de vigilance, ne voulait pas dire appel à créer des groupes armés. Ça, il ne faudrait pas mettre des intentions au chef de l'État. Un groupe de vigilance, c'est un groupe de vigilance, ça veut dire c'est un groupe de civils qui sont là pour veiller à ce que l'ennemi n'infiltre pas les villages, les communautés et au cas où il y a des conditions pareilles, eh ben, il y a les forces de sécurité qui sont là, il faut les dénoncer, il y a des forces, les FRDC qui sont là, il faudra les dénoncer et on appuie également la force régionale et la MONUSCO d'ailleurs qui sont là, on appuie au FRDC.
À Ituri, l'administrateur militaire du territoire de Mambasa fustige la décision de la société civile Force Vive de ce territoire d'inciter les opérateurs économiques et petits commerçants à l'incivisme fiscal sur toute l'étendue de cette entité. Ces derniers ont suspendu leurs activités depuis hier mardi pour dénoncer l'absence des opérations militaires contre les rebelles des ADF et leurs alliés Maïmaï face à la persistance de l'insécurité dans la région, mais aussi la dégradation des routes nationales numéro 4 et 44. L'autorité territoriale, le colonel Jean-Baptiste Matadi, désapprouve cette démarche qui, selon lui, est de nature à compromettre les efforts du gouvernement et de l'armée qui mène des opérations contre cette force négative. Jean-Baptiste Matadi a été joint par Ezekiel Mouzalia.
Je n'ai pas apprécié ça parce que la société civile semble se comporter en opposant des autorités ou du gouvernement. La revendication peut être juste, mais la faisabilité n'est pas bonne parce que nous avons des populations qui ne vivent que quand ils sortent. Ils n'ont une petite bouffe que quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train d'amener de l'eau au moulin de l'ennemi parce qu'ils demandent la sécurité. Mais la sécurité a un prix, c'est-à-dire le gouvernement doit avoir les moyens pour donner cette sécurité, donner du matériel aux militaires, ravitailler les militaires et tout ça. Et ça viendra d'où? À la population de Mambasa, je demande de ne pas être manipulée.
Au Kwilu, la société civile du territoire de Gungu dénonce des cas de verdict populaire perpétrés par la population dans cette entité. D'après cette structure, au moins 16 cas sont déjà enregistrés depuis le début de l'année 2022, occasionnant la mort d'une cinquantaine de personnes. Le dernier cas, c'est le meurtre Yurjedi d'un homme par ses neveux. Joachim Kusamba, président de cette structure, condamne cette pratique et invite la population à l'éviter tout en saisissant les instances judiciaires qui, selon lui, sont les seuls à rendre justice. Le point avec Irène Boma.
Selon le président de la société civile de Gungu, le dernier cas de verdict populaire signalé dans ce territoire, c'est celui enregistré hier mardi au village Kivunkutu dans le secteur de Kobo. Il s'agit d'un pasteur de l'église du Saint-Esprit qui a été tué à coups de bâton par les membres de sa famille qui l'ont accusé de sorcier après la mort de sa nièce, comme le dénonce Joachim Kusamba. Il condamne des cas de verdict populaire qui, d'après lui, sont récurrents dans cette partie de la province de Kwilu et qui ont déjà fait plus de 50 victimes depuis le début de l'année en cours.
Il y a sa nièce qui est décédée, les neveux, et ils ont monté un groupe pour aller voir les pasteurs, sous pression que c'est celui qui avait tué la nièce. On l'obligeait d'aller consulter les marabouts, sous pression de ses neveux. Finalement, il a cédé. C'est comme ça qu'en cours de route, le pasteur sera tué par ses neveux. Donc, le cas de justice populaire, le taux commence à être élevé. Depuis le début de cette année, donc notre monitoring révèle que, et ça c'est le 16e cas, on totalise 56 morts par justice populaire. Et nous continuons toujours à sensibiliser la population en interdisant la pratique de justice populaire. Et que s'il y a un problème, il faut consulter les juridictions judiciaires au lieu qu'elles-mêmes commencent à se faire justice.
Du côté de la police de Gungu, son commandant, le colonel José Lumona, indique que des recherches sont lancées pour retrouver les auteurs de ces meurtres en cavale. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans l'ex-cité de Kwilungongo, en territoire de Banzangungu, au Congo central, une altercation survenue hier soir entre des groupes de gangs a provoqué plusieurs dégâts matériels. L'administrateur adjoint de Banzangungu qui confirme les faits indique que la police qui devrait maîtriser la situation est intervenue tardivement. Didier Sia attribue ses troubles à répétition dans ce coin du Congo central à l'absence de l'autorité de l'État à Kwilungongo, qui est une commune urbano-rurale en devenir. Nana Plurich Mambou, reportage.
C'est en guise de représailles que la base des délinquants de la cellule Lufuku de Kwilungongo s'est attaquée à celle de la cellule 27 pour avoir passé à tabac un habitant de leur cellule pendant qu'il faisait les achats au marché de la cellule 27, a affirmé Didier Sia, administrateur adjoint du territoire de Mbanzangungu. Cette bagarre entre ces deux bandes s'est produite au marché de la cellule Lufuku. Elle a commencé à 19h et a duré plus de 5h. Ces jeunes délinquants se sont affrontés à l'arme blanche et à feu, affirme la même source. Très vite, c'était la débandade au marché. Les vendeuses et vendeurs ont précipitamment abandonné leurs marchandises pour se mettre à l'abri. À en croire Lévien Biavanga, coordonnateur de la société civile de ces coins, plusieurs blessés graves sont enregistrés. Ces derniers déplorent aussi l'écroulement des murs de certaines habitations sur lesquelles ces délinquants arrachaient des briques pour jeter aux membres de la bande adverse. Les toitures des maisons environnant les marchés Lufuku ont été détruites par les jets de pierre. L'administrateur adjoint du territoire de Mbanzangungu attribue ces phénomènes à l'absence de l'autorité de l'État dans l'ex-cité de Kwilungongo depuis la fermeture des bureaux de l'ex-cité à Kwilungongo. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Parlons des difficultés de conservation des corps dans les hôpitaux du Kasaï oriental, dans la ville de Mbujimayi, qui a près de 2 millions d'habitants. Depuis quelques jours, les morgues sont de plus en plus saturées. Certaines familles éprouvées ne savent plus organiser les obsèques dignes suite à cette situation qui les pousse à vite enterrer les leurs. De leur côté, les autorités sanitaires disent qu'aucune maladie ou événement anormal n'est jusque-là signalé pour justifier l'augmentation des cas de décès enregistrés ces derniers jours. Des explications avec Esther Ndalafina.
Cette situation a été constatée au niveau de la morgue de Bonzola où les dépouilles ont été retournées la semaine dernière et le week-end par manque de place, comme Ndaya le confirme ici.
Tous les bêtes sont partis déposer le corps d'une maman de notre quartier, mais à la morgue il n'y avait pas de place, ce n'était pas du tout.
Il n'abîme pas tout.
Cependant, à la morgue privée de l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance, on rejette ces allégations. Pour la gestionnaire sœur Julienne Kapinga, cette saturation a été enregistrée les deux mois précédents. Actuellement, la situation s'est améliorée vu la capacité du frigo mortuaire.
Je parlerai du mois de septembre-octobre, on était très saturés. Mais comme il y a si souvent les entrées et les sorties, nous, notre capacité est de 50 corps. Donc, je ne dirais pas saturé.
Du côté des autorités sanitaires, rien ne justifie actuellement l'augmentation des cas de décès sur la ville. Signalons que certains corps conservés dans les morgues de Mbujimayi proviennent aussi des villages situés loin de la ville. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En actualité internationale, l'Union européenne va travailler à la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les crimes de la Russie en Ukraine, a annoncé ce mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, répondant à une demande de Kiev. Nous travaillerons avec la Cour pénale internationale, CPI, et aiderons à mettre en place un tribunal spécial pour juger les crimes de la Russie, a-t-elle déclaré sur Twitter. Avec son partenaire, nous veillerons à ce que la Russie paye pour les ravages qu'elle a causés en utilisant les fonds gelés des oligarques et les actifs de sa banque centrale, a-t-elle aussi affirmé, rapporte l'agence France-Presse.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chargé de communication de Expo Béton, le salon des réflexions sur la construction des infrastructures en RDC qui a ouvert les portes de sa 6e édition ce mercredi. Philippe Katumba parle de l'objectif de cette année, celui d'achever les réflexions sur les statuts de Kinshasa comme province et pas seulement comme ville. Philippe Katumba s'entretient avec Donna Madimba.
Philippe Katumba, bonjour.
Bonjour.
Avant de vous poser les questions concernant les spécificités de cette édition particulière de cette année, quel bilan dressez-vous déjà à ce stade des 5 premières éditions de l'Expo Béton?
Merci pour la parole. Donc, comme vous-même vous l'avez bien dit, Expo Béton est à sa 6e édition. Pour cette édition, nous allons une fois de plus nous appesantir sur la problématique relative à la ville-province de Kinshasa, comme ce fut d'ailleurs le cas lors de l'édition passée. Lors de la 5e édition, donc l'édition précédente, on avait également réfléchi sur comment doter la ville de Kinshasa d'un statut particulier, lui conférant en quelque sorte l'autonomie d'évoluer comme une province à part entière, mais qui devrait comporter à son sein 4 autres villes. À l'issue de la 5e édition, de résolutions ont été proposées et ces résolutions-là ne sont pas jusqu'alors de lettres mortes, comme on dit.
Est-ce que c'est exécuté? Est-ce que
les autorités ont saisi tout de même cette question. Ils ont jeté un regard aussi singulier à tout ce qui était comme résolution de la précédente édition, raison pour laquelle la présente édition sera co-organisée par le Sénat pour dire que la législation veut faire en sorte que cette question puisse devenir imposable à tous. Je profite encore de votre micro pour dire que la présente édition sera sous le haut patronage du chef de l'État. Donc, nous avons le privilège de bénéficier de l'ouverture. Donc,
l'écoute la plus importante du pays. Mais quelle sera alors la particularité de cette 6e édition que vous présentez comme ayant l'écoute la plus importante des autorités du pays?
En quelque sorte, c'est une suite logique, puisque la 6e édition va une fois de plus s'apesantir sur la question de Kinshasa, mais sous un aspect un peu plus global. Alors, quand je parle de 6 piliers, vous comprenez maintenant, à ces niveaux-là, nous allons partir d'une manière aussi particulière, pilier par pilier, décryptage d'une manière aussi approfondie pour que, enfin, cette fois-ci, nous puissions proposer de résolutions aussi pratiques qui devraient être exécutées à court terme.
Les 5 piliers, très rapidement.
Le 5 piliers que nous aurons exploité, il y a par exemple le pilier sur le financement, parce que tout ce que nous aurons à préconiser comme politique visant à moderniser la ville de Kinshasa à l'horizon 2036 aura bel et bien besoin de financement pour sa matérialisation. D'où la question finance, comment accéder au financement pouvant permettre à ce que cette question puisse être traitée. Deuxièmement, l'autre pilier, le pilier du transport rapidement, vous savez que la mobilité dans la ville de Kinshasa pose énormément de problèmes. Comment décongestionner Kinshasa? Et telle est la question qui seront aussi posées au cours de cette question. Rapidement, là, selon les informations à notre disposition, le besoin de mobilité dans la ville-province de Kinshasa est à l'ordre de 8 millions de personnes par jour, sur un total de 15 millions selon les estimations. Faire déplacer 8 millions de personnes, monsieur le journaliste, le système de transport en commun à Kinshasa est basé sur le bus. S'il faut faire un calcul rapidement, 8 millions de personnes donc à travers le bus Transco, un bus Transco à 200 places, donc il nous faudra 40 000 bus pour assouvir à cette demande. Réfléchissez. Injecter 40 000 bis dans les infrastructures routières qui sont déjà dans des états un peu plus élaborés, ça va encore créer en quelque sorte une saturation en termes de véhicules. On va exploiter ou bien explorer le code routier de notre pays. Comment faire pour qu'il y ait l'harmonie entre ceux qui roulent sur la voie publique. Expo Béton est presque présent dans tout le secteur de la vie nationale.
Chargé de communication de Expo Béton, Philippe Katumba, je vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, le chargé de communication de Expo Béton, Philippe Katumba, s'entretenait avec Donna Madimba. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.